Une Parisienne en Islande et dans les mers polaires, paru dans Femina en 1903. Présentation. On parle beaucoup en ce moment de l'expédition au pôle Nord que prépare le docteur Jean Charcot. Déjà en compagnie de monsieur et madame Georges Victor Hugo, les petits-enfants du génial poète, dont l'anniversaire vient d'être célébré cette semaine, le docteur Jean Charcot avait excursionné dans les mers polaires. Excursion peu banale, dont nous avons été demandé le récit à madame Georges Victor Hugo, qui habite actuellement Florence. Nos lectrices prendront un vif plaisir, nous n'en doutons pas, à lire ces notes, écrites au jour le jour par la charmante, spirituelle et intrépide voyageuse. Yacht Rosemarine. Juin 1902. Jeudi. Depuis 3 jours, nous naviguons dans la brume. 3 jours dont toutes les heures sont pareilles. Midi est blanc. Minuit est blanc. L'Islande est devant nous. Tout près, dit-on. Mais il me semble que nous sommes là pour toujours dans ce brouillard glacé. Et je vais me coucher, fatiguée d'attendre l'obscurité impossible. Vendredi, 3 heures. On m'appelle gaiement. C'est l'Islande. Impatiente, je saute de ma couchette. Je mets ma peau de bique par-dessus une robe de chambre et, pieds nus, engourdis de sommeil et de froid, je monte sur la passerelle. L'Islande est là, enfin, séparée de nous par une mer furieuse. Ces hautes montagnes de neige sortent des bancs de brume. Le vent dur me réveille un peu et je vois, confusément, s'agiter autour de nous des barques de pêcheurs, toutes petites choses vaillantes dans cette sauvage immensité. Dimanche, Eskifjord. Cette nuit, sans nuit, nous avons fait notre première excursion sur ces poneys si farces, avec beaucoup trop de crinières pour leur corps de nain. Les selles des Islandaises ressemblent à de vieux fauteuils de velours rouge tout éventrés. Je refuse absolument de monter là-dessus, et je choisis une selle anglaise, une selle d'homme, aux énormes étriers de cuivre. Tout le village est là pour nous regarder partir. Dans cette foule mièvre, il y a des rires contenus, étonnés et des cris de japonais sortent de ses faces pâles. Les braves gens n'ont jamais vu une femme à califourchon et en jupe. Car j'ai utilisé ma jupe de bicyclette pour monter et je suis très satisfaite de mon idée. Me voilà bien d'aplomb sur mon petit cheval rose, le fusil en bandoulière et les poches bourrées de tous mes objets de toilette. Il n'y avait plus de place dans les sacs du poney de charge. Nous allons à Faskerud Fjord, de l'autre côté de cette montagne à pic, et toute la nuit nous marchons, tantôt sur l'herbe très verte et spongieuse, tantôt sur des flaques glacées où nous patinons. C'est affreusement traître. Je m'abandonne à la brave et savante bête qui me porte. Parfois, elle s'arrête pour laisser un poulain gros comme un jouet venir téter sous mes étriers. Il a des yeux immenses et de tout petits bouts d'ongles gélatineux que je tremble de voir s'écraser sur les roches si dures. À 2 heures du matin, nous sommes sur la crête, étroite au point que nous semblons y tenir en équilibre. Nous voilà entre les deux fjords, celui d'où nous venons, tout sombre et comme le négatif de celui où nous allons, tout clair. Maintenant, c'est la descente, dans le vide, une vraie dégringolade. Arrivé en bas, je ne sais par quel prodige, mon cheval s'arrête. C'est l'heure de son repos. Il boit l'eau de la mer et broute un long ruban de goémon. De petites maisons de planches, une épave, le nez en l'air. En rade, majestueux et tout blanc, le Saint-Pierre, navire hôpital des pêcheurs français. Voilà Faskerud Fjord. Il est 4 heures. Je suis un peu courbaturée et inquiète d'un lit. Le docteur du pays, qui est en même temps le consul de France, m'offre, pour ce qui reste de la nuit, sa maison entière, deux toutes petites pièces reluisantes de propreté, et mon lit, fait par la sœur de l'hôpital, ensommeillé sous sa cornette un peu de travers, je m'endors entre les bocaux de pharmacie et les livres de ce bon docteur consul. Voilà 10 heures que nous sommes à cheval, et à midi, nous repartons pour rejoindre le yacht par le même chemin. Mardi. Reykjavik. C'est presque une ville et presque un port. Nos dernières traversées ont été bien rudes. La houle a déménagé toute ma cabine, ouvert mes tiroirs, et il faut que, dans ce désordre, je m'active pour préparer notre voyage de 5 jours à cheval. 5 jours sur terre! Je dois caser notre nourriture, notre boisson, dans 2 coffres étroits. Nous sommes 7 en comptant notre guide, Thorgrimur, Gudmundsen et les 2 hommes qui s'occuperont des chevaux. Personnellement, j'ai droit à un sac jaune, infiniment petit, hélas, rond et long comme une saucisse. Ce remue-ménage me ravit après ces quelques jours d'inaction. Mercredi, jusqu'au soir presque sans repos, nous avons galopé par ces pays arides d'une égale monotonie grise. Si vite qu'on marche, on n'a pas la sensation d'avancer. Jeudi, les geysers. Au départ de Thingwalla, ce matin, très tôt, nos 18 chevaux se sont éparpillés dans la grande plaine nue, suivant chacun un sillon étroit et profond, au point qu'à tout moment, mes pieds se heurtent violemment à des pierres cachées dans la mousse. Il faut rassembler le troupeau à grands coups de fouet pour escalader cette sorte de muraille de lave lisse qui se dresse devant nous, imprévue. Quel drôle de chapelet de cavaliers et de chevaux en liberté nous faisons. Au-dessus de nos têtes, ouvrant la marche, je vois notre guide, géant blond, qui, pour m'encourager, me crie qu'il n'y a plus que 50 kilomètres avant d'arriver au geyser. Une grande buée au loin m'intrigue et j'entraîne notre petite troupe au galop. C'est un lac d'eau chaude. Nous déjeunons sur la rive, entourés de vapeurs et dans le bourdonnement de milliers de mouches. Le soir, au minuscule hôtel où nous passerons 2 nuits, on m'apporte pour ma toilette, dans un plat de tôle émaillée, de l'eau bouillante des sources sulfureuses. J'envie mes compagnons qui vont se baigner, malgré le froid intense, dans les cuves roses des geysers. Cette nuit, nous nous coucherons tout habillés, attentifs à ne pas manquer le saut formidable du grand geyser, s'il consent à jaillir pour nous. Un vent effroyable secoue notre maison de bois et nos couchettes de navire. Notre commandant, Jean Charcot, peut se croire toujours à bord. Vendredi. Notre caravane est maintenant de 31 poneys augmentés de ceux de 2 Anglais et de leurs guides rencontrés ici. Et cet escadron part à la découverte de la Gullfoss, le Niagara d'Islande. Nous guéons d'abord une rivière glaciale où nos chevaux nagent dans un sorbet laiteux. Plus loin, dans la plaine, chacun de leurs pas soulève des tourbillons d'une poussière rouge qui nous aveugle, nous étouffe. Et soudain, un bruit formidable dans le fond d'une gorge. C'est la chute d'or, dont les masses d'eau grondantes nous éclaboussent d'une fine pluie froide. Nous sommes ruisselants, fatigués, couverts de boue rouge et transportés d'admiration. Puis c'est le retour au même petit hôtel dont la saleté nous paraît plus mélancolique, aggravée par nos figures et nos vêtements plaqués de poussière humide. Lundi, Reykjavik, retrouvé, est un Reykjavik agrandi après les solitudes que nous venons de traverser. Je suis surprise d'avoir fait aussi vite, sans plus de fatigue, ces 500 kilomètres et je reçois joyeusement les félicitations de mes compagnons et de notre guide étonné. Nous reprenons la mer demain et cette fois, pour Jean Mayen, pour l'inconnu. Il y a 10 ans qu'on y est allé et aucune femme n'y a jamais mis les pieds. 11 juillet, océan glacial arctique. Longtemps après avoir perdu de vue l'Islande et ses hautes montagnes nues, nous rencontrons des bateaux de pêche français. Nous passons très près d'eux et sur tous, nous retrouvons le même labeur, jamais interrompu, aux gestes lents et cadencés. Ils sont loin derrière nous maintenant. Nous avons salué le dernier tout à l'heure. Ce soir, à bord des goélettes et des dundies rencontrés, tandis que les morues s'entassent sur le pont, on doit parler encore de ce yacht blanc qui s'en va plus au nord que le plus aventureux d'entre eux et qui emmène une femme. J'imagine le sourire d'étonnement amusé que cette découverte donne à ces rudes et graves figures de travailleurs obstinés. 12 juillet. Une houle au creux profond rythme en nous la même vague inquiétude. Depuis notre départ de France, il y a de cela bientôt 2 mois, nous avons souvent énuméré les obstacles qui pourraient nous séparer du but de notre voyage, de Jean Mayen. Aujourd'hui que nous en sommes si près, nous n'osons plus formuler nos craintes. Malgré la très mauvaise mer, le froid de plus en plus dur, nous ne voulons pas quitter la passerelle où le vent nous fige. À peine protégés par des passe-montagnes, des fourrures, des vestes de cuir, tout un équipement qui nous engonce, nous regardons devant nous. Les matelots, attentifs, sont plus silencieux que de coutume. Qui sait si nous n'allons pas rencontrer la banquise, être obligés de fuir, de redescendre. Et à la moindre erreur de direction, nous manquons Jean Mayen. Sur la carte marine étalée devant nous, l'île n'est plus qu'une petite tache noire sur une grande feuille blanche. Notre émotion donne au moindre fait une importance inaccoutumée. Le tintement de la cloche qui pique l'heure est écouté gravement et quand on prend la température de l'eau pour prévenir la banquise, nous regardons le thermomètre avec la sollicitude d'une mère qui soigne son enfant. 13 juillet, tempête de neige. Violente rafale, bouleversement de la solitude et du silence. Un ciel de plomb pèse sur nous, de gros nuages méchants barre l'horizon. Quelle désolation, quel abandon! Maintenant, c'est vraiment le nord inconnu, sauvage et bientôt peut-être Jean Mayen. 14 juillet, nous avons mouillé ce matin à 5 heures dans la baie du Bois Flotté. Nous ne voyons de Jean Mayen que la base du Bärenberg au sommet de glace ensevelie dans la brume et le rivage de terre grise où déferlent les lames. La baie, largement ouverte, ne nous offre qu'un faible abri. Nous sommes secoués violemment sur nos chaises qui grincent, tandis que des mouettes hostiles et criardes s'agitent autour du bateau. La neige tombe toujours plus épaisse. À bord, la vie est arrêtée. Nous avons laissé passer l'heure du repas. Nous ne pensons qu'à descendre à terre, à marcher sur la plage sombre. Mais il y aurait danger à débarquer par cette mer démontée. Nous trompons notre impatience en nous occupant des choses du bord, un peu indifférentes devant cet inconnu si proche. On pavoise, c'est le 14 juillet. On tire un coup de canon qui effarouche les oiseaux et les pavillons claquent dans le ciel froid. Puis nous préparons nos fusils, nous bourrons nos poches de cartouches et nous voilà tout équipés, bottés, calfeutrés, les mains enfouies dans des gants de laine, la tête encapuchonnée, prêts à partir au premier signal. À 2 heures, nous n'y tenons plus. Jean Charcot fait armer la baleinière et nous sautons dedans allègrement, tous les 4. Le courant est violent, les embruns nous étouffent. Près du rivage, nous sommes pris par le remous qui nous emmène et nous ramène dans ces tourbillons. Profitant d'une accalmie, 2 matelots se mettent à l'eau, tirent l'embarcation et nous échouons enfin. nous prenons possession de l'île déserte, escalade du remblai de sable d'ardoise qui s'effrite sous nos pas, et c'est maintenant une immense lagune desséchée et toute noire. La neige s'est changée en fines aiguilles de glace qui nous labourent le visage. On enfonce jusqu'à mi-jambe dans cette étrange cendre. Le vent fait claquer mes jupes et marcher devient presque douloureux. Je dois crier de toute ma voix pour me faire entendre de mes compagnons. Parfois, épuisée, je m'assieds sur une coulée de lave encore intacte et tordue comme une gigantesque racine ou bien sur un morceau de bois flotté, blanc comme un ossement. Notre émotion est si grande que la fatigue nous est légère et que nous ne sentons plus le poids de nos vêtements raidis par la gelée. Rien que le vent qui glisse sur la neige plissée et des nuages qui courent. Il n'y a même plus d'oiseaux loin du rivage. Ici, le silence est féroce. Le retour vers Rose Marine est difficile. À bord, nous ne pouvons nous résigner à nous aller reposer dans la confortable tiédeur du petit salon blanc. Nous restons sur le pont et très tard dans la nuit lumineuse, tandis que mon mari, tout engourdi de froid, peint une étude, nous regardons passer ces heures du nord. Peu à peu, le ciel s'est éclairci, la tempête s'est apaisée doucement et un pâle soleil rose, à minuit, est venu se tremper à peine dans la mer, à l'horizon. 15 juillet, c'est par un temps presque chaud, au lendemain de cette tourmente, que nous avons, pour la seconde fois, traversé la lagune, vieille amie déjà, égayée aujourd'hui par le soleil. Le Bärenberg nous montre sa tête blanche et le ciel est d'un bleu limpide. La neige a fondu, de fragiles petites fleurs, invisibles hier, brillent dans la poussière de lave. Notre savant et charmant ami, Bonnier, les cueille délicatement et les couche dans son inséparable boîte de naturaliste. Nous allons de l'autre côté de l'île, dans la baie de Mary Muss. Il y a là ce qui reste de la mission autrichienne, venue en 1882, il y a 20 ans. Après les 3 heures d'ascension, nous atteignons les hautes roches du col. Tout essoufflé, nous regardons ce fond de ravin où, dans de larges taches de neige, sont tapis de petites maisons aux formes spéciales entourées d'un désordre qui leur conserve un air de village endormi. Une hâte de connaître, de dévisager, nous fait descendre en courant, joyeux, une pente couverte de pierres plates qui craquent comme du verre. Mais en bas, c'est la désolation. Derrière les portes bloquées par la neige, nous ne trouvons plus que des pièces dévastées, mortes. Un étroit couloir obscur réunit les deux huttes principales, l'habitation du laboratoire. Dans l'une, nous découvrons des couchettes démolies, des fragments de chaises. Dans l'autre, des tables de pierre pour les instruments de précision. Nous furetons déblayant à coups de pelle les tas de neige entrés par les fenêtres basses dont les volets pendent, lamentables. Pendant quelques heures, nous aimons cet abandon, nous appelant d'une maison à l'autre pour nous montrer nos découvertes. Un soulier, une timbale rouillée, un livre. Dans un coin du couloir, une image coloriée, portrait de l'impératrice d'Autriche, mais d'une déconcertante note fraîche. De grandes taches de moisissure couvrent les murs de bois. Les parquets sont pourris et glissants. Les renards viennent ici s'abriter dans la tempête. Il y a des traces toutes fraîches de leurs pas sur la neige. Disséminées autour de l'habitation, d'autres constructions faites de bois flotté. Un petit pavillon haut perché avec une échelle pour y grimper qui servait aux observations. La poudrière, où il y a encore de la dynamite et des cartouches. Dans une sorte de hangar très bas, des tonneaux de métal pleins de pétrole à moitié enfouis dans la terre. Et enfin, la cabane aux provisions. Là s'entassent des conserves, des bouteilles vides, des caisses de biscuits avariées, des sacs éventrés d'où s'échappent des haricots décomposés. Comme midi approche, nous ouvrons à coups de pioche une des boîtes vénérables et nous mangeons gaiement le bœuf à la gelée qu'elle tient enfermé depuis 20 ans. Et ce bœuf est excellent. Nous serions tentés de rester là quelques jours, de remettre un peu d'ordre dans ce délabrement, et je combine des plans d'installation pour un hivernage possible. Mais cette évocation nous ramène à la réalité. Et vite, nous abandonnons le petit village fantôme. Nous regrimpons la colline et c'est avec satisfaction que nous apercevons le yacht dans le golfe, solidement retenu par ses deux ancres. 16 juillet, lentement rasant la côte, nous avons fait le tour complet de l'île, couronnée et gardée par le Bärenberg géant. Nous passons devant la baie de Mary Muss, devant la station autrichienne. À la lorgnette, nous voyons un renard bleu dévorant les restes de notre repas d'hier. Des nuées de mouettes, de goélands, d'hirondelles de mer nous entourent. Ils planent, crient, plongent, se disputent, passent et repassent dans les cordages. Ils sont si nombreux qu'ils mettent entre la terre et nous un voile papillotant et floconneux d'ailes blanches. Jean Mayenne s'est recouvert de brume subitement et devant nous, c'est encore une fois la mer libre, vide et lourde. Akureyri, Islande. Nous sommes venus nous réfugier dans les eaux dormantes de ce long fjord que ne trouble pas le gros temps du large. Hier, tandis que nous luttions péniblement contre le vent, roulés et secoués par une mer furieuse, nous avons vu à quelques milles de nous des glaces flottantes, étranges et blafardes, apparitions nageant dans la tempête, les avant-coureurs de la banquise, redoutés et désirés. 23 juillet. Dans le calme infini d'un coucher de soleil et d'un lever de lune, nous mettons à la mer une embarcation pour aller voir de près toucher ces blocs de glace aux formes de rêve, immenses champignons, bêtes monstrueuses. Longtemps nous nous faufilons entre les icebergs qu'une large houle balance. Il y en a à perte de vue et l'horizon se hérisse de leurs aiguilles. La rose marine nous est cachée par l'un d'eux et nous ne voyons plus que le haut des mâts du yacht. Les pêcheurs de morue, innombrables dans ces parages, font comme nous. Ils viennent avec leur you-you tailler paisiblement dans la banquise de gros morceaux de glace pour leur provision d'eau douce. Des oiseaux aux longues pattes, perchés au sommet des icebergs, nous regardent venir avec calme avant de s'envoler, étonnés et moqueurs. Cette harmonie surprenante, bleue, violette, rose, aux profondes ombres vertes, cette silencieuse majesté forme ce soir comme une magnifique apothéose polaire et c'est un bel adieu au nord que nous quittons, adieu fait d'admiration et de regret. Fin du récit de Dora Victor Hugo, une Parisienne en Islande et dans les mers polaires.